Sur la transmission de nos aînés, nos mémoires. C'est la continuité du monde, de nos valeurs, c'est surtout le partage entre générations, une manière de se rapprocher les uns des autres et de se réchauffer. Nous allons passer un moment chaleureux avec Éric Darmon. À propos, Éric, vous travaillez dans une ravissante impasse, un joli banc en bois est posé à l'entrée, entouré de verdure. C'est une invitation à s'y asseoir et à échanger avec vous. C'est ce que nous allons faire maintenant. Éric, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnologue, réalisateur et producteur. Vous faites énormément de choses. Vous êtes aussi secrétaire général du comité du film ethnographique au Musée de l'Homme et de l'Espace Crashbell. Vous réalisez des portraits pour les mémoires de la SACEM. Et vous avez fondé en 1982 Mémoire Magnétique, votre maison de production, avec l'ambition de créer une mémoire de toutes sortes d'événements. Vous dites « Je suis metteur en mémoire ». J'aime l'homme avec un grand H. Vous réalisez des portraits de gens ordinaires et extraordinaires. Et moi, j'ai été très touchée par votre immense ouverture d'esprit et votre regard sensible et bouillonnant. Votre amie, Ariane Nouchkine, qui est metteuse en scène de théâtre, dit de vous « Éric est une éponge, il prend tout, il restitue l'essentiel et en garde un peu pour lui. » Éric, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En gros, quelles valeurs vous ont transmis vos parents ?
Mais c'est bien de commencer par les parents, finalement.
Ouais.
C'est le commencement. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, le partage ? Ils m'ont appris la mémoire, ils m'ont appris la générosité, ils m'ont appris l'ouverture. Ils m'ont appris aussi à être moi-même, toujours. Et ce qui fait que, voilà, malgré les épreuves que nous avons subies au moment de ma naissance, entre autres, on a été obligé de quitter notre pays d'origine.
Ah, oui.
Et avec tout ce départ, cet arrachement, finalement, depuis des générations que nous étions dans ce pays, la reconstruction a été un travail. Donc, et la meilleure reconstruction, c'était la mémoire et la transmission de qui nous étions, d'où nous venions. Et ça, je pense l'avoir transmis à mes enfants également.
Oui.
Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et la création de ma société Mémoire Magnétique est venue presque naturellement, après des études d'anthropologie et d'ethnologie, du voyage.
Oui.
Voilà, ça a été le
moment. C'était une manière de reconstruire
l'accomplissement.
Tout ça.
L'accomplissement.
Ouais.
Et en même temps, c'est vrai que je fais ça, je suis metteur en mémoire jusqu'à il y a une heure, quoi.
Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tout petit, vous avez eu cette envie d'être dans la transmission, de réécrire un peu cette histoire un petit peu difficile, familiale.
Non, petit, je dirais pas. Je dirais, d'abord, je me suis nourri, je me suis construit.
Oui.
J'ai rencontré des gens, j'ai écouté très vite de la musique.
Oui.
J'ai vécu à une époque formidable, des années 60.
60, nouvelle vague.
La nouvelle vague et surtout la musique rock et pop où j'étais en Angleterre dès l'âge de 10 ans. Mes parents m'ont eu la formidable idée de, de m'envoyer pendant les vacances en Angleterre pendant un mois apprendre l'anglais, mais en fait, on était entre Français et on écoutait que de la musique. Et à 12 ans déjà, 11 ans, on achetait des disques, les premiers disques de Bob Dylan, de Cat Stevens, enfin toute cette génération-là. Et ensuite, on allait dans le sud de la France, à Juan-les-Pins, et là, je rapportais les disques que j'avais achetés, enfin plus ou moins achetés, à Londres.
Ouais.
Et donc, on écoutait, on faisait des fêtes absolument mais incroyables.
Mmh.
Et en même temps, dans la journée, il y avait le festival de jazz en titre Juan-les-Pins.
Ouais.
Et en fait, on baignait pendant toute la période de ce festival qui était juste à l'endroit où on allait, à la plage, on était en maillot de bain et tout ça. Mais il y avait les répétitions. Et les répétitions des plus grands, des Count Basie, des Ella Fitzgerald. J'ai rencontré tous ces gens. Enfin, l'estrade, mais on entendait les répétitions et tous ces monstres sacrés. Et le soir, nous écoutions à la Pinade, juste à côté, les concerts. On n'avait pas le droit d'y aller, on était trop petits. Mais pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, la musique m'a toujours conduite, c'était vraiment une ligne de conduite. Et le cinéma aussi, évidemment.
Et oui, alors justement, on va parler du cinéma. Comment on découvre cette vocation de cinéma? Alors, je crois que c'est au lycée, non, que vous avez découvert
Oui, très vite.
Ouais.
Parce que, en fait, j'étais un pas très bon élève et je séchais les cours et c'est vrai que j'étais au lycée Condorcet, un très très bon lycée.
Oui, 17e.
Ouais,
9e,
c'est ça, 9e. Et en fait, c'était le seul quartier de Paris où les cinémas ouvraient à 10h30, 11h.
Ah oui.
Enfin, il y avait aussi le petit cinéma des Champs-Élysées, mais bon, voilà.
Ouais.
Et en fait, je séchais gravement les cours. Et je me nourrissais finalement de ces nouveaux cinémas qui étaient même après la Nouvelle Vague. Ça a été aussi le Nouveau Roman, ça a été les Robes Grillées, ça a été les Duras, ça a été les Jodorowsky. Enfin, c'était des cinémas, incroyablement déroutants et très forts.
Très forts, très nouveaux, incroyables.
Et quand je rentrais à l'école, enfin au lycée, bon, c'était moyennement intéressant. Mais il y a une date importante dans ma vie, c'est aussi le fait, en 69, je suis parti, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, à New York.
Oui.
Et mon oncle vivait là-bas et mes parents nous envoyaient, ma sœur et moi, là-bas vivre avec lui pendant, je sais plus, 2 mois et demi ou 3 mois.
Ouais.
Et c'est la pleine période de Woodstock, évidemment.
Ah, ouais.
Mais on était quand même très jeunes, on avait 17 ans, 16-17 ans, et on a eu interdiction d'y aller, sauf que tous les groupes venaient à New York, et tous les soirs, on était au concert, que ce soit le Fillmorist ou à Central Park.
Donc des découvertes incroyables.
Incroyables, les Doors, on a vu écouter les Doors, Jimi Hendrix, tous les grands. On a eu la chance avec ma sœur et puis les copains qui étaient là.
Ouais.
Et c'est vrai que en 69, je suis parti à cette époque un peu miné, on appelait ça comme ça, un peu miné, branché, comme ça. Et retour, je suis rentré un peu hippie.
Complètement transformé,
non pas par la drogue, parce que je me suis pas drogué du tout.
Oui, mais dans le sens liberté.
Mais dans le sens liberté, découverte et ouverture d'esprit.
Ouais.
Et ces 2 mois et demi à New York, ça a ouvert l'esprit de petit Français triqué j'étais.
Tout un univers incroyable.
Et ça a ouvert effectivement des portes. Justement, qui vont aboutir à cette découverte du cinéma américain.
Et c'est ensuite que vous êtes inscrit à l'université Paris 7.
Beaucoup plus tard. Ouais. Ouais.
Et donc là, vous êtes inscrit, donc, je crois que c'est en 74, à Paris 7 en ethnologie.
Ouais.
Et vous avez fait des belles rencontres. Vous avez eu des profs aussi.
Oui, surtout Jean Rouche.
Voilà, l'anthropologue.
Je vous vois venir.
Et oui qui a inventé le cinéma indirect.
Pratiquement la Nouvelle Vague. Mais Jean, j'avais la chance d'assister quand même les samedis matins à ses cours à la Cinémathèque, donner des conférences à la Cinémathèque.
Ouais. Et lui qui était aussi très novateur dans son comportement, dans sa vie. Très ouvert sur le monde.
Incroyable.
Ouais,
et c'était la nouvelle ethnologie. En fait, on était déjà dans un mouvement vers l'autre. et un mouvement qui nous a amené à réfléchir vraiment sur ce qu'était l'anthropologie, ce qu'était le regard sur l'autre, ce qu'était la mémoire de l'autre et ce que ça allait apporter à la communauté quand on allait sur le terrain, comme on dit. C'est vrai que c'était des outils qui nous donnaient de...
Et c'était assez nouveau comme façon de voir l'ethnologie. Vous étiez en mode jeu, c'est-à-dire que ça invitait à la réflexion, à inventer. C'était tout nouveau, tout ça.
Oui, bien sûr, parce qu'on était justement très marginaux à Paris 7 avec Robert Jolin. On était plutôt dans un mouvement où justement l'engagement de l'ethnologue, l'engagement de qu'on n'était pas comme ça, on n'arrivait pas comme ça dans une communauté avec nos a priori et nos théories. Donc on était très marginalisés par tout le mouvement structuraliste.
Oui, c'est ça. Ouais, le mouvement
de Lévi-Strauss. On n'avait pas ces outils-là du tout. On apprenait autre chose. On apprenait la psychanalyse. On avait d'autres outils de relation à l'autre.
Pour s'intéresser.
On rapportait effectivement des informations qui n'avaient rien à voir, mais je pense qu'on transmettait quand même.
Et puis vous vous dites aussi que la curiosité c'est le plus important et que c'était ce qui était nouveau, c'était d'aller filmer des gens communs, ordinaires en fait, c'est ça.
Alors c'est bien après, c'est-à-dire que une fois que j'ai fini mes études d'ethnologie,
dans les années 80,
voilà, j'ai créé ma société parce que de toute façon il n'y avait pas de travail. On pouvait pas rentrer à EHESS, on pouvait pas rentrer au CNRS, on était complètement marginaux. Il y avait qu'un seul poste à pourvoir et c'est un copain qui l'a. C'était pas pour moi. Et avec mon ami de toujours Xavier Gros, un matin ou un après-midi ou un soir, je sais plus, m'est venue cette idée de pourquoi pas, parce qu'en fait je suis né professionnellement avec la vidéo.
Oui. On va en parler parce que justement, c'était les prémices de l'audiovisuel. Ouais. C'est ça, hein, c'était un nouveau médium. Ouais. On est passé de la caméra Super 8 qui était
un bon outil,
mais c'était muet, il n'y avait pas le son.
Si, il y avait le son.
Ah, il y avait le son, caméra.
En 80, oui.
Et puis, vous êtes ensuite... Alors, moi, je ne connais pas très bien la technique, vous allez nous expliquer quels outils vous avez utilisés ensuite pour acquérir plus de liberté de mouvement dans votre façon de filmer. Dites-moi.
Non, en fait, c'est... Il y a eu un appareil, un instrument qui a été créé à un moment bien précis en 82-83 qui permettait de filmer sans s'arrêter pratiquement. C'est-à-dire qu'on mettait en mémoire sans gêner. D'abord, ça ne faisait pas de bruit.
Ouais.
On pouvait filmer 3 heures d'affilée. On pouvait jouer son propre jeu de caméraman et la caméra s'oubliait. Mmh. Et nous-mêmes, on était oubliés par la personne qu'on filmait ou le groupe que nous filmions. Mmh. Et là, ça a été une révélation parce que pour moi, j'étais autonome.
Ouais,
Et l'important, c'est d'être au plus proche de l'autre.
De l'autre.
Et le plus sincère et le plus simple, dans mon plus simple appareil.
Oui, sans avoir une équipe.
Rien,
tout
voilà.
De
pas
soi,
d'ingénieur du
pas
son.
D'ingénieur, pas d'ingénieur. Ce que vous n'aimez pas trop.
J'aime pas trop. Excusez-moi, la cabine.
Non, mais c'est pas pour vous.
Mais c'est vrai que le fait d'être seul avec ma caméra. À qui je parlais d'ailleurs, avec laquelle j'avais une réelle émotion, parce qu'on avait une complicité, elle était sur mon épaule comme un oiseau presque, qui avait ce regard particulier et qui était en fait mon troisième œil ou moi-même mon regard, j'avais un regard schizophrénique en fait, j'avais un regard qui... Un œil qui regardait dans la caméra pour le cadrage, pour la netteté, pour le cadre, enfin le plus important. Mm. Et l'autre œil, mon œil gauche, était plus dans la vie. Il anticipait même carrément l'image que j'étais en train de cadrer. Et en fait, la relation que j'avais à l'autre était quand même une relation de regard. Alors c'était une sorte de cyclope ou un œil ou un regard à trois yeux. Enfin bon, en tout cas, il y avait
finalement, vous
je faisais qu'une seule.
Vous faisiez qu'une seule personne.
Oui, voilà.
Et donc c'était effectivement très intense et une façon de révéler l'autre plus, plus...
La confiance.
La confiance,
la confiance, ouais. En sachant que, justement, le rapport à l'image était déconstruit. C'était un rapport qui, tout d'un coup, était naturel. Mmh. C'était... Et en même temps, il faut savoir que j'étais demandé.
Ouais.
C'est-à-dire que la création des mémoires magnétiques, effectivement, on filmait les gens ordinaires et
D'abord ordinaire.
Et ensuite, avec la notoriété,
oui,
pour
bien
ainsi
sûr,
dire,
bien sûr, ouais.
On a filmé des gens extraordinaires.
Ouais.
Mais les gens ordinaires, parce qu'on a été les premiers à créer ce qu'on a appelé la mémoire magnétique. En fait, c'est que on proposait à nos clients, parce qu'en fait c'était une société, de se faire filmer leur propre histoire. Donc ça rejoignait l'anthropologie du quotidien, finalement. Mm. Et donc, j'ai pu filmer des événements qui étaient même carrément cachés pour des ethnologues,
oui.
qui étaient entre autres un enterrement d'un dignitaire vietnamien. Il se trouvait que les membres de la famille, pour la plupart, étaient dispersés dans le monde. Il leur fallait une mémoire de ce dignitaire.
C'est une manière de leur...
Et donc, on a été autorisés, et même pas autorisés, on était payés. Pour filmer ces cérémonies, ça a duré sur plusieurs jours.
Et retranscrire
sur vidéo, avec ces cassettes. Alors, à l'époque, c'était des cassettes VHS. On n'était pas dans le domaine du professionnalisme.
Ouais,
on était dans un domaine plus, disons, amateur, sauf qu'on filmait professionnellement. Donc, Jean Rouch en parle très bien aussi. On montait en tournant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chute.
Ouais,
tout était utile. Et la technique de cinéma, du champ contre champ, du plan fixe, du raccord, voilà, tout ça.
Ce qui fait qu'on est plus proche de la réalité.
Exactement.
Vraiment.
Et la différence par rapport à d'autres personnes qui filment, il se trouve que à la fin de notre entre guillemets prestation, on remettait la cassette, c'est-à-dire que en fait, on avait absolument pas de traces, d'où l'idée qu'on était plus des témoins que des voyeurs, puisque les seules personnes qui pouvaient voir ce que nous filmions, c'était les gens que nous filmions.
C'était la famille ou les
voilà.
gens. Ouais.
Et donc, ils s'ouvraient totalement et le rapport de confiance
s'installait plus facilement. Ouais. Merci Eric, on va faire une petite pause. Alors, vous nous avez choisi un morceau des Rolling Stones.
Ah bah oui.
Alors, comment il s'appelle? C'est Love I Nearly Died, c'est ça? Je le prononce bien. On se retrouve tout de suite après, Eric. Merci. Rallye FM 93.1, l'émission Les Grands S'amusent avec Éric Darmon, mon invité. Nous continuons donc avec Éric sur sa passion du cinéma. Alors Éric, comment est-ce que vous trouvez les personnes que vous avez filmées? Comment vous allez chercher les personnes que vous avez envie de filmer?
Ouais, c'est une question. En fait, je vais pas les chercher. On me demande de.
Ouais.
C'est-à-dire que, ne serait-ce là pour les dernières productions que je viens de terminer, c'est une série de 40 portraits pour la SACEM, pour la commission Mémoire et Patrimoine. Donc, vous voyez, on est complètement
dans
en phase
troupe,
dans l'histoire de mon histoire.
Mm.
Et depuis 3 ans, j'ai filmé et rencontré et entretenu des fortes, très très fortes relations avec des grands compositeurs, que ce soit de la musique contemporaine ou du rock, ou des auteurs, ou autour de la musique, de la musique de variété, des producteurs. Donc, 40 personnages qui sont extraordinaires, et c'est pas même pas moi qui les ai choisis, c'est ça qui est étonnant. Et je me suis adapté en travaillant évidemment sur les personnages que j'allais rencontrer. Beaucoup, certains m'ont demandé beaucoup de temps de travail, parce que j'estime qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un sans au moins lui donner l'échange. Et le comprendre, le prendre.
Donc prendre le temps
le comprendre, le prendre, voyez.
Et pour
le transmettre, il faut le comprendre. D'après ce que les gens disent, une de mes qualités, c'est que en fait je ne juge pas. Je ne juge jamais, en fait. Tout être que je filme à toute ma considération, toute mon attention et ma passion.
Tout le monde a quelque chose d'intéressant
tout le
monde,
lui
à
tout
raconter,
le monde, tout le monde, il suffit d'aller
transmettre.
Le chercher.
Ouais, c'est ça.
Il faut aller le chercher,
il faut avoir cette
curiosité, puis c'est pour ça qu'Ariane, quand elle me traitait d'éponge, c'est très très vrai, c'est-à-dire que, mais en même temps, c'est une éponge humaine.
Ouais.
C'est pas.
Alors à propos d'Ariane Nouchkine. Vous allez, en 1994, elle va vous demander de la filmer.
Oui.
Alors là, c'est un gros travail parce qu'en fait, c'est pour le 40e anniversaire de sa compagnie. Le Théâtre du Soleil. Et alors là, c'est rigolo parce que vous dites, avec Ariane, ça a été un coup de foudre.
Oui.
C'était un coup de foudre, ça a été une espèce de flash entre nous et... Elle m'a demandé de l'accompagner sur cette création qui a duré, je crois que c'est 580 heures de tournage, c'est ça, c'est énorme.
590.
590, alors précisément.
Non, je plaisante.
C'est énorme.
Mais c'est surtout, ça a duré 3 ans.
C'est ça.
Immersion. Donc, en fait, je réalisais pour une émission culturelle à la télévision France 5, TV5, une émission culturelle, et au moment de la rédaction, on a proposé d'aller faire un petit reportage de 4 minutes, 2 fois 4 minutes sur le Théâtre du Soleil.
Ouais.
Donc je suis parti avec ma caméra tout seul, et puis en une journée, j'ai filmé, fait des interviews, rencontré, et au moment d'une répétition, je suis rentré dans la salle de répétition, j'ai commencé à filmer Ariane en répétition, et apparemment, elle m'a adopté, alors que tous les comédiens étaient effrayés qu'elle ne me donne pas un coup de poing, à quel point j'étais trop proche d'elle. Et donc, et à la fin du tournage, au moment de la représentation, elle est venue vers moi et elle m'a félicité en me disant que, voilà, elle n'avait jamais rencontré un caméraman aussi discret.
Aussi discret.
Alors, j'avais gagné...
Sa confiance, justement.
Sa confiance.
Alors, vous dites, vous avez une expression qui est « fly on the wall
».
Je suis une mouche.
Sur le mur.
Sur le mur, une mouche qui... imagine.
C'est ça, c'est le côté... C'est justement le côté transparent, le côté bienveillant.
Oui.
Voilà. Le fait de ne pas juger, c'est la bienveillance aussi. Ça, c'est mon comportement premier. Et la bienveillance, c'est le respect de l'autre, c'est l'écouter, c'est être là tout le temps. Alors... avec le film qui s'appelle donc Au soleil même la nuit, qui est en sous-titre qui s'appelle Scène d'accouchement, Il se trouve que ça a été une collaboration mais fusionnelle avec Ariane et Catherine Villepoux, ma monteuse, qui est après devenue co-réalisatrice, tellement on avait de travail et tellement on a travaillé ensemble.
Oui.
Mais en réalité, je peux dire que c'est Ariane qui l'a réalisé. Moi, j'étais le metteur en mémoire et j'ai, comme elle disait, j'ai tout pris, j'ai tout filmé. Mais j'étais partout. C'est-à-dire que je commençais à 8h du matin et je terminais à 2h du matin ou à 3h du matin quand il le fallait. J'étais sur Radio Mnouchkine, là on est à Radio Alik, mais j'étais en permanence. J'étais présent.
Présent, ouais.
Plus qu'omniprésent, d'accord, j'étais présent, attentif.
Et alors, comment ça se passe au niveau technique? Elle avait un micro-cravate, c'est ça?
Un micro-cravate à chef,
ouais.
En permanence. Je changeais deux fois par jour les piles.
Ouais.
Et elle était reliée à ma caméra.
Donc, ça veut dire qu'elle oubliait complètement.
Elle m'oubliait, moi.
Elle vous oubliait, ouais.
Elle m'oubliait, moi, ma caméra. J'avais une très grosse caméra.
Ouais.
Très 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 importante,
imposante,
mais comme je le suis aussi, donc on me voyait plus. Alors il y a une anecdote qui est très amusante qui montre bien le travail que je faisais, c'est que Ariane, au Théâtre du Soleil, les comédiens ont l'habitude de s'embrasser tous les matins.
Ouais.
Ils s'embrassent.
Ils sont 60.
Et à un moment, je dis, je peux pas faire ça, donc je suis créé un badge. J'ai marqué, j'embrasse pas. Parce qu'en fait, ils venaient tous se précipiter sur moi pour m'embrasser. Et ça, c'était pas possible en termes de filmage. Et donc, ils ont compris très vite que j'étais à la fois avec eux, pour eux, mais dans une certaine distanciation, presque brechtienne, mais une vraie distanciation qui me permettait de créer le théâtre, finalement, dans mon propre travail de réalisateur. Mais en fait, je filmais tout le temps, mais avec un regard attentionné. C'est-à-dire que je partais de l'idée que tous les jours était un nouveau film.
Et c'est vrai qu'on le ressent dans le reportage, enfin dans le documentaire plutôt, parce qu'il en ressort des choses où finalement, il y a une scène où elle engueule un comédien. On se dit, elle n'a pas peur d'engueuler devant, justement, en étant filmée. Il y a des anecdotes comme ça où... donc on sent qu'elle est pas observée, elle se sent pas observée ou jugée ou voilà.
Mais c'est un film sur le théâtre et sur la création du théâtre. C'est sur Ariane Mnouchkine, mais en réalité, comme c'est toute sa vie le théâtre, et ce film est aussi, on parlait de transmission, c'est vraiment la transmission. Et je me souviens d'un article dans Nouvelle Obs, c'était marqué « Attention, ce film est dangereux parce qu'il peut éveiller des vocations ». Et c'était très amusant. Enfin, pas amusant, mais c'était...
C'est
mais
génial.
C'est vrai, d'ailleurs.
Génial de donner...
J'ai la chance d'avoir, je ne sais pas combien, un ou deux films, enfin trois films peut-être, obligatoires dans les lycées. Par exemple, le film sur Ariane Mnouchkine, si vous faites un cursus théâtre, c'est un film obligatoire. Vous êtes obligé de le voir.
Wow.
Ça dure 2h40. Hein.
Quelle belle transmission à la jeune génération.
Oui, ça c'est vraiment un des films dont je suis fier de tous mes films, comme je suis fier de mes enfants.
Et, c'est des accouchements, comme vous dites.
Oui,
hein.
Chacun des films est pour moi comme un enfant. Je les accompagne, je les projette, j'en parle comme si je les avais fait hier, comme si je les avais produits ou réalisés hier. Mais voilà, ils font partie de moi-même.
Ouais, ça se sent, c'est magnifique et c'est un bel exemple c'est vraiment de la belle transmission.
Merci.
On va refaire une petite pause musique avec...
Je vois pas.
Vous ne voyez pas.
Oh, set me up now, baby. I got a story to tell. Dirty old dog, I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog been snooping around. you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen.
Sur Aligre FM 93.1, l'émission Les Grands s'amusent avec Eric Darmon. Alors, nous allons prendre au téléphone Nance, un jeune qui a une question à vous, une ou deux questions, je crois, à vous poser, Eric Darmon. Voilà, un jeune curieux qui a envie de vous poser une question, qui est aussi qui a envie de transmission. Voilà, donc on écoute Nance.
Bonjour Nance.
Bonjour, vous m'entendez ?
Bonsoir oui. Nance.
Bonsoir.
Alors,
Déjà, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. J'avais deux questions qui étaient un peu liées toutes les deux. La première, c'est d'après votre expérience, du coup, qui était très vaste et très plurielle, est-ce que vous diriez qu'il y a un extraordinaire en chacun d'entre nous ?
Ah oui, oui. Oui.
Et du coup, quelle forme prendrait cet extraordinaire ?
Moi, je pense que voilà, c'est la considération que vous avez à l'autre. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est sûr que si vous vous présentez comme d'une façon agressive, d'une façon égotique, égocentrique, il ne peut pas y avoir d'échange. Échange, confiance sont les éléments clés pour moi de la rencontre. Et puis, je pense que c'est pas forcément des conversations d'une grande profondeur, mais c'est simplement pour que les personnes que vous rencontrez se racontent, parce qu'elles ont toujours quelque chose à raconter, parce qu'il y a toujours quelque chose d'important qu'elles ont, faut cacher au fond d'elles-mêmes. C'est presque de la psychanalyse, mais pas sans canapé, sans voilà, sans payer. Donc c'est vrai que même un grand compositeur et arrangeur qui s'appelle Jean-Claude Petit m'a traité de psychanalyste. Il m'a dit ce mec est dangereux en parlant de moi, et parce que j'avais réussi à lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, alors que c'est un homme public. Mais je pense que même parler avec Monsieur Olivier, mon boucher, que je vois tous les dimanches. Mais c'est génial, on se marre, voilà. C'est un état, c'est un état. Un état de recevoir, de toute façon de donner aussi.
Voilà, d'accord. Nance. Est-ce que tu as la réponse à tes questions ?
La première question, du coup, mais la deuxième en partie, la réponse elle est presque déjà amorcée.
Oui.
Mais c'était, est-ce que de toutes les personnes que vous avez pu, auxquelles vous êtes intéressé jusqu'à maintenant, Est-ce qu'il y a un point commun, une singularité entre toutes les personnes qui vous ont attiré dans votre parcours? Ou est-ce que c'est juste cette espèce d'extraordinaire que vous allez rechercher là où il se trouve, c'est-à-dire, du coup, si je vous entends, c'est toutes les personnes qui nous entourent, en fait.
Bah oui. Bah oui, c'est ça.
C'est le point commun de Columba.
C'est la rencontre avec l'autre et l'intérêt qu'on peut... Parce que, de toute façon, on se nourrit de l'autre. Ariane Mnouchkine, donc cette grande metteur en scène, a une façon de travailler très particulière. C'est de faire travailler des comédiens en duo, en trio, chacun apportant l'un à l'autre la profondeur du personnage. Et elle a le coutume de dire fait aussi bien quand elle a trouvé un des comédiens qui jouait bien, juste. Elle disait à celui qui devait normalement jouer le rôle, parce que ça pouvait être une fille ou un garçon, chacun au moment de la distribution n'était pas choisi. Eh bien, elle disait mais fais aussi bien ou mieux, mais au moins fais aussi bien. Et ça, c'est vraiment important dans la transmission, dans l'attention. Et c'est une pratique orientale, hein, de toute façon, d'apprendre avec l'autre. La transmission, c'est ça. Hein. Donc, on a tout à apprendre de l'autre, moi, je pense.
Du coup, c'est la démarche plus que les personnes qui en elles-mêmes qui vous...
Pardon. Ah non, non. Moi, voilà, le travail que j'ai fait pour la SACEM, j'ai considéré ça comme un puzzle, finalement. Et chaque personnage était une pièce de ce puzzle, qu'il soit compositeur, auteur. Alors, ce que j'adorais dans ce projet, enfin, dans cette réalité, puisque c'est plus un projet, ça existe vraiment, c'est que parfois, il y avait même des liens entre un qui me parlait de l'autre, mais il ne savait pas qu'il avait parlé de lui. Donc, c'était cette espèce d'univers, finalement, qu'on construit autour de, voilà, des gens qui font le même travail. Et je pense que c'est, si on regarde, si quelqu'un un jour a la curiosité de regarder ces 40 fois une heure de rencontres et de portraits, trouvant des liens, et là que ça va de la musique contemporaine la plus profonde à la chanson française la plus de variété, on retrouve tout ça, toute cette énergie-là. Je pense que c'est à travers la création, tout simplement, que c'est le fait de rencontrer des créateurs et que la création fait l'unité de tout ça.
D'accord, parfait.
Ben merci.
Merci, Nance, d'avoir appelé. Je te souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Éric, merci. Quand vous intéressez comme ça, vous interviewez des gens, vous allez filmer des gens, est-ce qu'il faut oublier sa propre culture, sa propre identité pour pouvoir s'intéresser à l'autre, pour pouvoir rentrer dans l'univers de l'autre? Est-ce qu'il faut complètement s'effacer? Être l'homme invisible?
Ouais, c'est un peu l'homme invisible, mais en même temps, le caractère que j'ai de recevoir, d'ouverture, ça fait toute la différence. Je veux pas gêner l'autre. Quand ils ont envie de me dire des choses, j'ai pas d'ego. Peut-être j'en ai un,
oui,
peut-être énorme, surdimensionné certainement.
Je pense pas.
Mais, mais en tout cas, c'est pas mon problème. Si je suis là, c'est pour faire ressortir
révéler.
Je suis un révélateur.
Ouais.
Et c'est ça mon travail, finalement. On s'en fout de moi. Non, sauf aujourd'hui, voilà, 18h30, voilà, on s'intéresse pour une fois à moi, c'est bien. Et donc, je parle et je suis capable de parler de moi très longtemps. Mais là, le sujet, c'est le personnage qui est devant ma caméra. Et c'est ça qui est le plus important.
Ouais.
Et tout passe par le regard, tout passe par l'attention et l'attention. Parce qu'il y a une tension qui se crée maintenant entre nous deux.
Oui,
on n'avait pas ces fils qu'on a créés...
Qui fait qu'il se passe des choses.
Et pareil, si imaginez, vous m'interviewez sans vous intéresser vraiment à moi, parce que c'est votre boulot.
Ça n'aurait aucun intérêt, aucune saveur. Ouais.
Et je le verrai.
Ouais.
Et de toute façon, qu'on soit... on le sent. On le sent, l'intérêt. Et les micros disparaissent, et les casques disparaissent, et tout d'un coup, on se rencontre.
Mmh. Alors, j'ai un exemple qui m'a plu. Vous avez filmé Gérard Jouannès, qui est un pianiste, compositeur, et qui a écrit, qui a composé pour Jacques Brel. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant ce documentaire, ce portrait, je ne sais pas comment...
Un portrait, comment
vous l'appelez. Et en fait, lui dit qu'il il a vécu dans l'univers des pianos avec son grand-père. Et puis, au cours du film, on voit que c'est l'homme de l'ombre, mais il y a une complicité qui s'installe avec Jacques Brel au fil du film. Lui facilite le travail de Brel, il facilite son travail de composition. Et en fait, les deux s'imbriquent de plus en plus l'un dans l'autre. Il l'accompagne sans gêner le chanteur. Il acquiert une grande finesse de travail, d'observation. Et ça m'a fait un peu penser à vous, votre façon de travailler comme ça avec une grande finesse d'observation, de travail, d'être toujours en retrait, mais quand même très très présent. Très présent, parce que voilà, sinon, comme vous dites, il se passe rien, il n'y a pas d'émotion. Mais j'ai fait un petit peu un parallèle avec vous et ce monsieur, parce que je trouve que dans la manière de fonctionner, voilà, de travailler, il y a quelque chose qui est assez proche. Ça, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Voilà.
C'est un arrangeur. Ouais. J'aime bien aussi le mot arrangeur. Il arrange les choses.
Il arrange,
et il accompagne.
Oui, c'est ça.
Et ces deux mots extraordinaires. Gérard Jouannès, malheureusement, nous a quittés.
Mais c'était une... Dans le film, on voit que c'était une belle personne et très, très discrète. Voilà.
Ouais,
avec une belle personnalité, oui. On va écouter. Alors, je vous laisse l'annoncer.
Je vois pas. Est-ce que... Allez, Choros.
Et donc, c'est Choros. Villa Lobos. On en parlera juste après. sommes toujours sur Aligre FM 93.1 avec Éric Darmon. Alors Éric, expliquez-moi ce choix de musique. Choros numéro 5, Alma Brasileira.
Voilà, Villa-Lobos.
Villa-Lobos.
Donc Villa-Lobos est brésilien. Il est décédé il y a fort longtemps, dans les années 50.
Ouais.
Et il se trouve que c'est un... Bon, ben, encore une fois, j'ai eu la chance d'intéresser des producteurs qui m'ont demandé de réaliser un film sur Villa-Lobos, mm-hmm, pour le 50e anniversaire de sa mort.
Ouais.
Et donc, je suis parti au Brésil. Mais il se trouve que le Brésil, je l'avais déjà fréquenté grâce à mon voisin et ami Franz Krasberg, qui est lui malheureusement aussi décédé, mais à l'âge de 96 ans, il y a 3-4 ans. Et donc... c'était l'occasion de rencontrer le Brésil, ou du moins, en tout cas, il faut dire que le sous-titre du film, c'est L'âme de Rio.
Oui.
Villa-Lobos, L'âme de Rio. Mm. Et c'est grâce à sa musique, qui va à la fois de la musique de ville, on l'entend très urbaine, et en même temps une musique très, très, très imprégnée de l'Amazonie.
Oui.
Et il se trouve que Krasberg et Villa-Lobos se sont connus à Paris, même si c'était pas vraiment la même génération, il se trouve qu'ils se sont croisés à Paris plusieurs fois. Krasberg a évidemment tout son travail que je vous conseille de découvrir. C'est un travail sur la défense de la forêt amazonienne et c'est un artiste, on va dire sculpteur, mais c'est un artiste complet dans lequel on peut découvrir donc ses œuvres là où mon bureau se trouve.
Qui était assez engagé auprès de la défense de la forêt amazonienne.
À la fois des autochtones, la fois des Indiens et de la forêt amazonienne.
Ouais.
C'est un homme qui a combattu toute sa vie pour ce message, et son œuvre est extrêmement représentative de ce message et la puissance de ce message. Et mon travail, une de mes autres casquettes, comme on dit, c'est effectivement de m'occuper de cet espace Krasberg, de ce lieu, qui est un centre d'art contemporain, art et nature, France Krasberg, et qui propose et qui offre aux visiteurs de découvrir à la fois le travail de Krasberg, mais également d'entendre à travers le film que j'ai fait sur lui et d'autres films, je fais plusieurs films sur lui, de rencontrer finalement ce personnage qui est très 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 fort, très puissant, qui a une vie absolument incroyable. Et je vous conseille vraiment de découvrir cet homme.
Où est-ce qu'il se trouve, cet espace?
C'est au 21 avenue du Maine à Paris, dans le 15e arrondissement.
Pour ceux qui nous écoutent,
dans un endroit édénique.
C'est magique. J'y suis allée, c'est magique. Oui, c'est un homme qui est d'une liberté, d'un engagement, qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Et il est un petit peu sauvage, hein.
Oui, c'est un rebelle.
C'est un rebelle. Je crois qu'il habitait dans une cabane, je ne sais pas combien de mètres de...
Exactement, il a construit sa maison sur un arbre.
Ouais,
c'est même pas une arbre, c'est une branche d'arbre.
C'est une branche d'arbre.
Mais il faut dire que c'est un homme qui a subi... toute sa famille a été exterminée dans les camps de concentration.
Il était en polonais.
Juif polonais. Et c'est vrai que la fonction même de cette violence, de tout ce qu'il a vécu, et que quand il s'est sauvé, qu'il a réussi à arriver au Brésil en 1948, qu'il a repris goût à la vie grâce à la richesse de la nature. Et quand il a vu cette nature à nouveau détruite et massacrée, il a dit ça y est, la barbarie recommence. Et il s'est ressenti, il a revu finalement les camps, les arbres brûlés pour lui. Représenter les corps de ses propres parents brûlés dans les camps.
C'est fort.
C'est comme ça que son œuvre est essentiellement basée sur justement la récupération des arbres brûlés de la forêt amazonienne, où il en fait des totems et des œuvres d'art, finalement. Donc, c'est pas un sculpteur, c'est pour ça que tout à l'heure,
je pense que c'est
plus un... Et là-dessus, je le rejoins sur un metteur en mémoire. C'est un transmetteur de la mémoire de la nature.
C'est un
homme qui... une puissance absolument incroyable. Et voilà, donc à travers, on le sent à travers ses œuvres, que ce soit ses tableaux ou ses œuvres monumentales.
Et pour faire un parallèle avec Héctor Villa-Lobos, qui était aussi un homme, on l'appelait l'Indien blond, un musicien aventurier.
Oui, mais ça, c'est une escroquerie, ça.
c'était pas ça.
C'est une escroquerie. Mais non, c'est Villa-Lobos, il s'est créé un CV d'une façon complètement géniale.
Alors, c'était un autodidacte. Il était très sûr de lui. Hein.
Ah oui, c'était un mec incroyable. Il faut voir comment il a reçu Rubinstein dans son hôtel à Rio, alors que c'était un compositeur autodidacte.
Ouais.
Et au Brésil, c'était très, très mondain comme ça.
Ouais.
Il n'était absolument pas reconnu en tant que compositeur. Donc, il est parti grâce à un ami et grâce à Paris dans les années 1920.
Ouais.
Et là, il a rencontré les plus grands.
Voilà,
il a réussi à se faire un CV, à se faire même interpréter des œuvres dans des plus grands lieux. Et après, il est retourné au Brésil et il a dit regardez, je suis célèbre en France. Et c'est vrai qu'à Paris, à cette époque, les années 1920-30, c'était l'apogée même de la création de la musique contemporaine qu'aujourd'hui on entend.
Oui.
Et c'est la modernité de ce créateur qui fait que moi je l'aime. Et parce que et je travaille en ce moment sur un auteur, un compositeur qui s'appelle Joaquín Rodrigo.
Oui.
Et Joaquín Rodrigo, c'est un compositeur du concerto d'Aranjuez que tout le monde connaît, ou si on ne le connaît pas, on a entendu au moins une fois dans sa vie. Et il était à la même époque, pratiquement, à quelques années près.
Les années 30, un peu.
Voilà.
Ouais,
les années 30 à Paris. Et c'est là où il y a tout un... Comment on peut dire la base même de la musique contemporaine.
De la musique contemporaine, oui. Ouais. Alors, Eric, j'avais...
Le terreau, voilà. C'est le mot. Le terreau.
Alors, ça passe très, très vite avec vous. On ne s'ennuie pas du tout, du tout. On va faire une deuxième émission. Aujourd'hui, l'humanité vit quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous pensez que cela va susciter des vocations d'ethnologue chez les jeunes?
D'ethnologue?
Oui.
Le fait d'être confiné
Tout ça, ce
non,
truc-là.
Non. Peut-être pas des vocations d'ethnologue, mais une réflexion anthropologique, certainement.
Oui.
Certainement. C'est-à-dire, l'anthropologie, c'est la vision du monde. Et je pense que cette crise peut entraîner finalement une autocritique, un autoregard. Moi, je suis très, très fervent du microcosme. Je pense que je ne vois pas le monde comme une énorme civilisation. Je crois plus dans des petits groupes, dans des rapports au monde à l'échelle humaine.
Ouais.
Et je pense que cette crise nous a permis de nous arrêter un petit peu, de réfléchir sur nous-mêmes, de voir les essentiels. Mmh. Et on est tellement loin de l'autre qu'on a tellement envie d'être proche de l'autre. Et peut-être qu'on va être démasqué, en fait. Quand on sera démasqué, on va être vraiment démasqué.
Ouais.
Et je souhaite que ce démasquage sert vraiment à nous faire découvrir tels que nous sommes et non pas avec des faux semblants. Et j'espère que ça ne va pas entraîner des barbaries nous guettent. Voilà, si ça peut aider, l'anthropologie n'est pas un gros mot. L'anthropologie est un beau mot. C'est un mot qui nous permet de rencontrer l'autre, justement, de comprendre.
Ouais.
Et à travers l'autre, on se comprend soi-même.
Exactement.
Donc, c'est facile. Hein. Il ne faut pas aller lire des livres très compliqués. Il faut simplement
s'intéresser.
Ouais. Aller au Festival du film ethnographique Jean Rouche, dont je m'occupe aussi tous les ans, et découvrir justement le regard, voir le monde autrement.
Ouais.
Et l'anthropologie sert réellement à voir le monde autrement, c'est-à-dire sans juger, sans critiquer, être simplement ce qu'on est et considérer l'être humain.
Ne pas être dans la peur.
Dans l'égalité, exactement.
Être dans l'égalité.
Dans l'égalité.
Ouais. Aujourd'hui, si vous aviez un message à passer aux jeunes, quel serait-il ?
D'écouter l'autre.
D'écouter l'autre, c'est ça ?
Oui, vraiment.
D'être vraiment dans
dans l'écoute, dans l'ouverture. Là, on entendait l'histoire des clans et des bandes et des choses. Que ces bandes-là se parlent.
Ouais.
En fait, le problème, c'est se parler.
Ouais.
Se parler, se rencontrer, partager, échanger, construire,
et
plutôt que détruire.
Pas juste à travers des écrans.
Ouais.
C'est des vraies rencontres, s'oublier un petit peu, oublier son ego un peu.
Exactement.
Ouais.
Se rencontrer. Donc le message, faut se servir de cet outil génial qui sont les réseaux sociaux, mais réellement pour se rencontrer en vrai, et en réel, et en sincère.
C'est ça.
Et pas jouer les faux semblants, parce qu'il n'y a rien de pire que les faux semblants.
Ouais.
Parce qu'ils sont faux et c'est des semblants.
Être vrai. Merci Eric, ça passe très très vite.
Vous
reviendrez ?
Avec plaisir.
Ça me ferait plaisir. Je vous remercie vraiment parce que pour de nous avoir.
On n'a pas tout dit.
Ah Non, loin de ça. Vous nous avez apporté un super regard et beaucoup transmis vos connaissances. C'était vraiment un très bon moment.
Merci.
À très bientôt, Eric.
Bien sûr.
Et puis, vous pouvez aller sur le site de Eric, www.mémoiremagnétique.com. Vous allez vous régaler avec tous ces documentaires. Et moi, vous pouvez m'écrire sur lesgrands@aligrefm.org. Voilà. À bientôt. On ne se revoit pas, mais on s'écoute dans 15 jours pour une nouvelle émission. Au revoir tout le monde. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me.